BFM Bourse, le club de la bourse.
Nos experts du club, ce soir, ils viennent de nous rejoindre. Olivier Maltès, directeur des investissements d'Altéis by Yomoni. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Guillaume.
Et Romain Aumont. Bonsoir Romain.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue également, macroéconomiste et stratégiste pour Natixis IM. On a des marchés européens qui tâtonnent, Wall Street en petite baisse. On va parler d'Nvidia dans un instant et de SpaceX, mais la croissance européenne pose véritablement question là. On a une commission européenne qui abaisse sa prévision de croissance pour cette année. Elle attendait 1,2% de croissance, elle n'attend plus que 0,9%. Et les PMI ont été publiés tout à l'heure, ils se contractent de plus en plus au mois de mai en France. En France, c'est quand même majeur là. C'est Gilles Mouet qui nous disait tout à l'heure, il se passe quelque chose de négatif en France. En France, le PMI des services se retrouve à un plus bas depuis 2020, depuis la crise Covid. Là, au mois de mai, il y a un point d'attention particulier manifestement qui est en train d'émerger sur la France, Olivier.
Bah, c'est certainement l'impact de la hausse des prix des carburants, globalement, la hausse, la crainte aussi de l'inflation de la part des consommateurs, et donc on consomme moins de services globalement, donc ça se revoit, ça se ressent dans les indicateurs prévisionnels. On a déjà eu un chiffre de croissance au premier trimestre au niveau français qui était nul, enfin 0% globalement, donc en dessous de la moyenne européenne. Donc on voit ça, et on voit effectivement le Premier ministre est en train, je crois, de faire ses annonces, mais on voit qu'il a jusqu'à présent fait un soutien relativement modéré, parce qu'il est aussi bloqué côté budget.
Eh oui.
Vous l'avez rappelé, Guillaume, on est aussi alerté sur le côté attention aux dépenses budgétaires et au soutien qu'on pourrait avoir.
Le FMI alerte la France, attention à vos aides, gouvernement français, n'allez pas trop loin parce que vous avez un souci budgétaire. Annonce, déclaration du FMI aujourd'hui. Donc voilà.
Donc c'est assez logique, entre guillemets, j'ai envie de dire, sur la baisse globalement des services. Les ménages ont une confiance relativement faible, globalement, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, mais en tout cas, impactent leurs dépenses, réajustent leur budget. Il y a des dépenses qu'on est obligé de faire lorsqu'on travaille, qu'on doit prendre sa voiture. Donc même s'il y a des aides de l'État, elles sont relativement faibles, globalement, faute de budget. Mmh. Et puis aussi, je pense que le gouvernement se positionne dans une situation que ça pourrait durer. Si on aide depuis le début et si on aide depuis le premier jour globalement et que ça dure très longtemps, à quel moment on arrête potentiellement d'aider lorsqu'on ne peut plus? Il faut aussi certainement réserver un peu ses cartouches pour pouvoir aider. Mais c'est vrai que c'est un signal relativement difficile pour la croissance globalement, et peut-être qu'on en parlera, mais on attend aussi potentiellement une hausse des taux de la BCE prochainement, qui ne devrait pas non plus aider globalement la croissance européenne, y compris la croissance française. Donc tout ça est plutôt moribond, plutôt pas folichon.
Et alors Gilles Mouet tout à l'heure nous disait la dégradation du PMI français à ce rythme, c'est digne d'une économie en récession. Généralement, quand un PMI se dégrade à ce point, c'est qu'on est en train de basculer en récession. Alors c'est pas une prévision, mais c'est peut-être un signal qu'on voit l'activité française, et par ailleurs Bruxelles qui abaisse quand même assez drastiquement de 25% sa prévision de croissance pour cette année en zone euro. Romain, comment vous regardez ça?
Il faut prendre quand même les données d'enquête auprès des directeurs d'achat, donc les enquêtes PMI, avec une pointe de sel, je dirais, dans la mesure où nous devons, il y a très peu de pouvoir explicatif entre ce niveau des PMI des services avec la croissance française en réalité. Donc maintenant, dont acte, il est clair qu'on est sur de la donnée de sentiment, de la donnée d'enquête, on n'est pas encore sur de la donnée économique réelle. On sait que ce choc énergétique va sans doute détériorer la demande interne en Europe, notamment en France, mais ça ne va pas être le seul pays qui va être impacté, comme la Commission européenne nous le signale. Et c'est surtout finalement la demande interne des économies qui est touchée, que ce soit le consommateur, que ce soit les entreprises qui font face finalement déjà à des coûts de financement qui sont beaucoup plus élevés qu'ils ne l'étaient encore au début de l'année. Et donc finalement, la question, c'est de savoir, est-ce que la Banque Centrale Européenne, dans ce contexte, peut se donner les marges de manœuvre et augmenter ses taux, dans la mesure où on est déjà en train de faire face finalement à une contraction de la demande interne. Et la logique qui viendrait à dire qu'il y a un risque de diffusion de cette inflation, on va dire volatile, énergétique, puis alimentaire, dans finalement l'inflation la plus visqueuse, ça c'est une interrogation que l'on a, et il serait quand même de bon ton pour la Banque Centrale Européenne, finalement, de rester un petit peu pragmatique et pas trop dogmatique vis-à-vis de cette trajectoire qu'emprunte à l'heure actuelle l'économie européenne.
Oui, mais est-ce que vous êtes rassuré du fait que les taux obligataires souverains se tendent quand même depuis un certain temps, que ce soit en Europe ou aux États-Unis? Du coup, peut-être que les banquiers centraux n'auront pas besoin d'agir puisque le marché fait le boulot à leur place. Est-ce que de ce point de vue, on peut se dire, finalement, tant mieux que les taux se tendent parce que ça évitera aux banquiers centraux de tendre les leurs de taux?
Exactement. C'est ce qu'on se dit, c'est que finalement, le sale boulot a été réalisé par le marché obligataire, et donc la banque centrale ou les banques centrales ne vont pas avoir besoin d'avoir une posture trop restrictive. Mmh. Pour nous, notre scénario scénario encore tient sur un statu quo qui serait quand même un petit peu restrictif dans la prise de parole, mais qui ne serait pas restrictif dans la décision en termes de taux d'intérêt.
Oui, est-ce que le fait que les banques centrales, notamment la BCE, c'est vrai, effectivement, laisse filtrer l'idée que des hausses de taux sont possibles, est-ce que l'objectif, c'est finalement justement de faire comme le FMI vis-à-vis de la France aujourd'hui, à savoir dissuader les États d'aller trop loin dans leurs aides? Est-ce qu'il y a un peu de ça dans ce discours un peu moins accommodant des banquiers centraux, qui ne les engagent pas à relever leurs taux, mais juste émettre l'hypothèse pour que les États, dans cette phase, dans cette période où ils annoncent les uns après les autres des aides aux particuliers, aux consommateurs, voire parfois, évidemment, au-delà, au secteur industriel, etc., au secteur d'activités différents, les divers et variés, ben voilà, les dissuader d'aller trop loin dans les aides en distillant des messages de possibles hausses de taux.
Ça peut être ça, mais le message quand même devient de plus en plus fort côté BCE et côté directeur de la Banque Centrale, avec l'idée aussi qu'il y a eu un basculement sur, on est maintenant plutôt au niveau de la Banque Centrale visiblement dans un scénario négatif, là où ils étaient toujours dans un scénario potentiellement d'impact relativement faible et de fin et de libération du Détroit. Ils sont plutôt en train de basculer sur le scénario où ça durerait longtemps et potentiellement il y aurait un risque au niveau de l'inflation. Je crois que les marchés estiment à environ 90% la probabilité de hausse sur la prochaine réunion de 25 points de base au niveau des taux directeurs.
Ah, et, en Europe, ouais.
Et en Europe, et c'est vrai que le mandat de la Banque Centrale Européenne est de contrôler l'inflation. Christine Lagarde a été relativement ferme sur ce point-là. Ils ont besoin aussi de réaffirmer le fait que ils ne laisseront pas forcément filer comme ils l'avaient fait en 2022 sur le choc de l'inflation. Ils ont besoin de réaffirmer ça, même si elle l'a dit que ça pourrait être que temporaire, globalement. J'ai bien peur que malheureusement, ils restent sur ce mandat-là. Alors, c'est sûr qu'ils ont attention en disant plus les gouvernements vont effectivement aider, ils vont essayer de permettre à ce que l'inflation potentiellement se diffuse, en aidant globalement les consommateurs et en aidant les particuliers à absorber complètement ce choc, plus ils auront besoin de le faire et ils auront besoin de le faire de manière importante. Mais je pense que là, ils sont vraiment en train de préparer à la fois le marché sur ce basculement avec des signaux de plus en plus inquiétants sur leur analyse du fait que ça va durer, que ça dure et qu'il faut se préparer à potentiellement une inflation.
Oui, oui. Alors, est-ce que ça va durer? Ça dépendra. Ou bien sûr, l'inflation va continuer de se diffuser et ça durera surtout selon l'évolution de ce conflit là-bas, au Moyen-Orient, dans le détroit d'Ormuz. Alors, d'après Bloomberg, l'Iran discuterait en ce moment avec le sultanat d'Oman pour mettre en place un péage permanent sur le contrôle maritime dans le détroit d'Ormuz. Voilà, un péage permanent, il y aurait des discussions entre les Iraniens et les Omanais contre le droit international, parce que c'est pas dans le droit international, ça va se faire payer les détroits. Mais voilà, on aurait des discussions en cours. En tout cas, on voit qu'hier, le marché croyait dans une résolution rapide du conflit, et puis aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Reuters nous dit que le guide suprême iranien s'oppose à toute sortie de l'uranium enrichi du territoire iranien, alors qu'hier, on pensait l'inverse. C'est très compliqué. Tous les chemins mènent à l'impasse. On en est encore là, Romain, et on est toujours dans l'idée que ça pourrait durer, s'éterniser. Si tel était le cas, si ce conflit durait, au-delà de l'été, quoi. Disons l'été, et pourquoi pas jusqu'en septembre, qui sait. Voilà. Dans ce cas, quel serait l'impact sur les économies, sur l'inflation? Parce que là, on parle d'inflation au stade actuel, après 3 mois de conflit. Mais si on devait passer l'été encore avec ce conflit, on serait à 5-6 mois. Dans ce cas-là, quels seraient les impacts potentiels?
Donc, on est en effet suspendu au développement de la zone qu'on ne contrôle pas. Donc, nous, on partait du scénario que le choc serait temporaire parce qu'on allait faire face à des belligérants qui étaient quand même assez rationnels et pragmatiques. Bon, le fait est que si on part du scénario de risque qui consiste à dire qu'on a un détroit qui reste bloqué et une pression sur les matières premières énergétiques telle qu'on l'observe jusqu'après l'été, eh bien là, en effet, on a un vrai choc énergétique qui commencerait finalement à se diffuser dans l'inflation sous-jacente. Normalement, un choc énergétique prend aux alentours de 2 trimestres pour pouvoir se diffuser dans l'inflation sous-jacente. Auquel cas, on aurait un vrai problème parce qu'on aurait une demande, notamment en Europe, qui serait totalement dégradée, une demande interne, que ce soit encore une fois la consommation des ménages ou l'investissement des entreprises. Mais on aurait finalement un impact qui serait potentiellement positif également du point de vue de l'économie américaine, qui est beaucoup moins sensible à ce qui se passe du point de vue du détroit d'Ormuz. Oui. On a finalement un impact hétérogène entre les zones géographiques. On sait que l'Asie est principalement dépendante des sorties de ce détroit en termes de matières premières énergétiques. On sait que finalement, les Américains, l'économie américaine est totalement immunisée vis-à-vis de ce choc. On a un impact de prix parce que les marchés sont mondiaux. Néanmoins, on sait qu'on a d'autres vecteurs à l'heure actuelle sur lesquels on reviendra qui sont en train de pousser la demande interne aux États-Unis, que ce soit de la consommation des ménages ou l'investissement. Et finalement, on a la zone euro qui, elle, est totalement dépendante énergétiquement. Certes, pas du détroit, mais néanmoins, l'impact pris sur les matières premières énergétiques va finalement dégrader le scénario macroéconomique. Et encore une fois, La vraie question dont on parlait tout à l'heure, l'aide des États vis-à-vis des économies, on n'est pas du tout sur une ouverture de robinet budgétaire telle qu'on l'a observée en 2022. On a des États qui ont bien pris conscience que les aides doivent être ciblées, transitoires, et que globalement, on ne va pas répéter les erreurs de 2022. À l'heure actuelle, on est de l'ordre de 0,1 point de pourcentage de la zone euro en soutien budgétaire pour défendre surtout la partie offre, donc les entreprises. Et donc finalement, on se retrouve face à une situation où il est quand même très peu probable de voir l'amplitude du choc, on va dire headline, sur l'inflation totale, se diffuser en un pour un sur l'inflation sous-jacente en zone euro. Ce qui devrait permettre aux banquiers centraux, encore une fois, d'attendre peut-être après juin pour commencer à se mettre dans une posture de restriction monétaire.
On va parler de la tech dans un instant, bien sûr, de SpaceX, d'NVIDIA qui a publié ses résultats. Le titre NVIDIA recule légèrement d'1,9%. Je dis légèrement parce que ça aurait pu être bien pire ou bien mieux. À l'échelle d'NVIDIA, -1,9, c'est pas une très forte variation. Juste avant, restons sur les taux rapidement. Est-ce que Kevin Warsh fait partie, non pas des solutions, mais du problème? Est-ce que l'arrivée de Kevin Warsh à la tête de la Fed est un facteur aggravant sur les taux? Est-ce que c'est aussi cela qui tend les marchés, qui braque un peu les investisseurs, qui explique la hausse du 30 ans américain et des taux longs un peu partout dans le monde, Olivier?
Il y a deux éléments dans l'arrivée de Kevin Warsh, à mon avis, qui sont importants. Comme vous l'avez rappelé aussi précédemment, il y a cette idée vraiment sur laquelle il veut réduire le bilan de la banque centrale. Et c'est vrai que pouvoir acheter des obligations longues, ça peut permettre aussi de contenir les taux, globalement, notamment si on décide de baisser les taux directeurs. Et donc, s'il veut réduire le bilan de la banque centrale, évidemment, on aura moins ce soutien-là pour le contrôle plus ou moins efficace, mais en tout cas, une tentative de contrôle sur les taux longs. Et il y a surtout la dissension globale qu'on voit à l'intérieur de la Fed et qu'on a vu aussi, y compris au Sénat, lorsqu'il a été élu et qu'il a été intronisé, sur lequel on a rarement vu, et on n'a même jamais vu au Sénat, un tel écart aussi proche, en fait, sur le vote oui et le vote non pour l'installation de Kevin Warsh. Et on voit aussi cette dissension au niveau de la Banque centrale qui est très importante au niveau de la Banque centrale américaine. Et il va, même lorsqu'il va arriver, il va avoir besoin de faire un consensus aussi à l'intérieur de la Banque centrale pour s'installer. Donc il va certainement devoir prendre son temps et avoir un discours plutôt dans la ligne, en tout cas c'est notre analyse, dans la ligne globalement de la Banque centrale américaine qui commence à préparer un scénario un peu moins dovish. Alors ils vont pas monter leur taux immédiatement, mais en tout cas être beaucoup moins dans les anticipations de baisse des taux. Alors on n'en voit plus aujourd'hui dans le marché, mais il y a quand même toujours cette idée qu'il va pouvoir baisser les taux. Donc je pense qu'il y a à la fois ce côté bilan qui inquiète un peu, il y a ce côté aussi où il a envie d'avoir moins d'ouverture sur la communication au niveau de la Fed et vraiment de communiquer vraiment plutôt sur les bilans et de permettre des discussions plus intenses qui n'apparaîtraient pas dans les minutes. Tout ça inquiète et peut inquiéter un petit peu globalement, mais c'est vraiment l'impact bilan, et ça là-dessus il a jamais bougé sur le côté il veut réduire le bilan de la Banque centrale américaine, ce qui
on continue d'en parler bien sûr dans un instant. Juste un mot sur cette valeur qui a pris en 10 ans. Vous avez une minute pour trouver de quelle valeur il s'agit. C'est la devinette du soir, là. Ce titre, en 10 ans, a pris 20 062%. Voilà, 20 062% de hausse en 10 ans. Vous avez une minute. Nous, on laisse nos invités réfléchir. Vous tous qui nous suivez à la radio et à la télé, vous pouvez bien sûr vous aussi réfléchir, nous apporter vos réponses en commentaire. Vous avez pour cela une minute sur notre Félix BFM Bourse. Le temps pour moi de vous donner la tendance sur les marchés à quoi 17 minutes de la clôture, parce qu'on accélère vers cette clôture, on entre dans la dernière ligne droite de la séance. Le CAC est en hausse de 0,03%. Air Liquide gagne 1,8%, Euronext gagne 1,8% aussi. Aujourd'hui, pas de jaloux. Pernod Ricard, ArcelorMittal aussi sont bien orientés. Alors Antoine, vous le disiez, c'est rare de voir ArcelorMittal et Total Energy progresser sur la même séance. C'est le cas aujourd'hui, Antoine. On a les deux valeurs, Arcelor et Total, en forme.
Oui, absolument, parce que généralement, ArcelorMittal est la première victime des prix du pétrole qui montent. Et Total en est le premier bénéficiaire. De titres montent effectivement en même temps sur la même séance, ce qui est assez rare.
Oui, c'est le cas aujourd'hui. En baisse, Airbus, -3,1%, condamné en appel. Vous savez, dans le drame du Rio Paris de 2009, Airbus avec Air France KLM, Airbus et Lanterne Rouge à -3%, donc du CAC 40, et Fage de son côté perd 2,9%. On est au bout de la minute, messieurs. Vous aviez une minute, pas une seconde de plus, pour trouver. Je suis une valeur cotée quelque part dans le monde. Et en 10 ans, j'ai pris 20 062%. Qui suis-je? Romain?
Peut-être Nvidia?
Olivier?
Je sais pas du tout.
Menteur. Nvidia, bon, c'est Romain qui a gagné, voilà. 1-0, bravo Romain. Du coup, vous êtes sanctionné puisque vous avez gagné, c'est logique, et c'est vous qui allez devoir parler en premier d'Nvidia. La publication d'Nvidia, pas mal, exceptionnel même, mais on s'habitue à l'exceptionnel, enfin, on prend mauvaise habitude quand même, on est habitué à manger dans le 5 étoiles en permanence, 3 étoiles plutôt, c'est plus simple. Nvidia perd 1,8% là à Wall Street, alors que la publication est exceptionnelle. Comment vous regardez cette réaction des marchés?
Bon, c'est un mouvement assez classique d'achat de la rumeur, vente de la nouvelle. On est sur une consolidation tout à fait saine du titre après les bonnes nouvelles, comme vous venez de le signaler. Bon, Nvidia, il n'y a pas de secret. À l'heure actuelle, Nvidia permet, du point de vue de l'infrastructure, d'être à la frontière de la recherche concernant l'intelligence artificielle, est en train de se placer maintenant sur la nouvelle révolution de l'intelligence artificielle qui est l'intelligence artificielle physique. Oui. Et donc, on a globalement une demande des hyperscalers qui ne cesse de s'accroître. En 2026, on va avoir encore plus de 650 milliards d'investissements dans les CAPEX pour l'intelligence artificielle. Et qui y a-t-il? Qui sont les grands acteurs en face? Vous avez Nvidia et vous avez, dans une moindre mesure, mais quelque chose dont on parle beaucoup, Samsung Electronics en Corée, mm-hmm. qui bénéficie extrêmement fortement de cette demande absolument exponentielle.
Nvidia annonce des bénéfices sur un an en hausse de 211%. Les bénéfices d'Nvidia, plus 211%. Le titre recule d'1,8%, Olivier. Marché fait la fine bouche ou quelque part il a raison?
Non, mais c'est presque stable pour Nvidia. Oui. Nvidia le recule. Ils ont des chiffres qui sont quand même très impressionnants, et ça trimestre après trimestre ils battent encore le consensus. Alors ils n'ont pas battu en termes de prévision, je crois le consensus le plus optimiste, enfin la prévision la plus optimiste, mais globalement c'est quand même très très fort, et ils arrivent à conserver toujours leur marge, et on peut même dire qu'ils sont plutôt prudents en termes de consensus parce qu'ils mettent rien sur la Chine globalement, et peut-être que dans les discussions entre Donald Trump et la Chine, potentiellement, il y aurait peut-être une ouverture ou quelque chose. Donc, ils sont relativement prudents aussi dans leur projection. Non, mais je pense que ça devient une grosse valeur, en fait, Nvidia, et c'est plus du tout comme on a pu le voir, on peut le voir sur les semi-conducteurs ou sur la mémoire ou sur des choses un peu plus spécifiques. Ça devient un peu la grosse base, le gros bloc de l'IA, et qui commence à moins faire rêver, entre guillemets, dans le sens ça devient tellement gros, tellement énorme, tellement stable qu'on va peut-être avoir moins de volatilité sur le titre et un peu moins de prévision. Ce qui est important, c'est de voir à quel point ils continuent d'investir, à quel point ils continuent d'avoir beaucoup de cash qu'ils vont redistribuer aux actionnaires de manière importante suite à la demande. C'est trimestre après trimestre. Chaque trimestre, on attend le moment où ils décevront, ils ne déçoivent pas. Et là, on a des prises de bénéfices un petit peu, mais il n'y a rien d'anormal et il n'y a rien d'étonnant. C'est vraiment la valeur presque sûre, entre guillemets, dans l'écosystème IA de plus en plus.
Effectivement. Et alors, est-ce que quand SpaceX s'introduira en bourse, des valeurs comme Nvidia, les 7 magnifiques, vont subir des ventes massives? Parce qu'il va bien falloir trouver de l'argent pour aller investir dans SpaceX. SpaceX, hier soir, a déposé son projet, son dossier d'introduction devant le gendarme des marchés financiers américains. Ça y est, on est lancé maintenant pour sans doute une intro vers la mi-juin. On n'est pas très surpris, on s'oriente d'après l'EFT vers 75 milliards de dollars de levée de fonds, ce qui en ferait la plus grosse introduction de ce point de vue, mais pas en valorisation. Saudi s'était introduite sur des niveaux de valorisation plus élevés. D'où viendra l'argent, quoi? Est-ce qu'on doit craindre une baisse des autres valeurs tech quand SpaceX sera introduit en bourse? Est-ce qu'il faudra bien aller trouver l'argent quelque part? Est-ce que ceux qui ont des plus-values sur la tech vendront, prendront des bénéfices pour réintroduire sur SpaceX leur argent?
Là, pour le coup, les investisseurs qui veulent un petit peu se faire peur et qui veulent espérer des gains relativement importants, vous avez rappelé la performance d'Nvidia sur 10 ans, on a l'impression que le gros, non pas de la performance, mais le gros du potentiel, si on cherche des performances à trois chiffres globalement sur Nvidia, on se dit que c'est tellement gros maintenant que ça devient vraiment difficile. Là, on est vraiment sur quelque chose, sur un projet qui paraît complètement sensé, qui paraît complètement fou, et sur lesquels le potentiel, si jamais ça fonctionne, tout ce qui est calcul galactique, tout ce qui est, on voit bien à la connexion des différents métiers qu'il peut y avoir aujourd'hui à l'intérieur de SpaceX, là pour le coup, si jamais ça fonctionne, c'est hautement spéculatif, mais si jamais ça fonctionne, le potentiel paraît énorme. Donc, on peut s'attendre à avoir une partie des investisseurs, effectivement, qui vont aller rechercher dans SpaceX cet espoir de gain vraiment immense, avec le risque associé. Hein, il y a, je crois, 20 pages de risque dans ce qui a été présenté à la SEC pour l'introduction. Il y a énormément de risques face à cette introduction en bourse. Mais on voit trois métiers différents, trois entreprises différentes à l'intérieur de SpaceX, certaines qui génèrent beaucoup de cash, d'autres qui en perdent parce qu'ils investissent, il y a un investissement qui est colossal.
Mais au global, au premier trimestre, ce sont des pertes, hein, SpaceX, oui. Pas de bénéfices, au contraire, des pertes de 4 millions de dollars. C'est-à-dire celui qui va chercher des bénéfices par action, au début, là, en l'état actuel des choses, ce sera des bénéfices bénéfices négatifs par action. Il faut quand même l'avoir en tête.
Oui, parce qu'il y a un gros investissement, notamment sur l'IA, évidemment. Il y a sur le côté spatial aussi un gros investissement. Il y a Starlink quand même qui est une machine à cash relativement impressionnante. Il y a tous ces projets quand même qui ont une cohérence, qui ont vraiment du sens globalement sur le spatial.
C'est l'impression, soit ça prend pas et auquel cas, ciao, quoi. Mais si ça prend, ça peut le faire.
C'est exactement ce qui est présenté aux investisseurs, je pense. Hein, c'est un gros pari, c'est quelque chose de particulièrement risqué. Mais
tous les ingrédients s'allient bien, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, on a nos auditeurs. Max nous a écrit sur le Félix BFM Bourse. Lui, il ne croit pas du tout à l'intérêt de SpaceX. Il nous dit SpaceX perd de l'argent. Ce titre va attirer tous les pigeons. Grâce à SpaceX, le pigeon apprendra à voler dans l'espace. Voilà ce que nous dit cet auditeur. Romain, vous portez un regard là-dessus sur SpaceX, l'introduction, les premiers détails qui ont filtré dans le dossier de déposé à la SEC?
Alors nous, on considère qu'il y a une suffisante profondeur de marché à l'heure actuelle, surtout dans le secteur technologique américain, pour pouvoir absorber une IPO comme SpaceX le fait. Ça reste quand même une levée assez marginale. Il faut rappeler que la capitalisation boursière des 500 premières entreprises américaines, c'est quand même 70 000 milliards de dollars. Et donc, on a grosso modo en face une épargne aussi des ménages américains qui, financière, est de l'ordre de 150 000 milliards de dollars. Les montants font peur, mais quand on les rapporte aux agrégats qui sont à notre disposition, ça reste quelque chose de marginal. Ensuite, concernant le fait qu'on a une entreprise qui, en effet, a des bénéfices négatifs par action à l'heure actuelle, pas oublier que le marché, il est quand même sur une base d'anticipation de cash flow futur surtout, et que Amazon a mis beaucoup de temps pour générer du cash, et c'est devenu l'entreprise que l'on connaît à l'heure actuelle. Donc, il faut nécessairement dans le marché à un moment des spéculateurs qui apportent du capital aux entreprises.
Il en faut.
Il en faut tout de même. Donc ensuite,
il faut toujours des pionniers. Hein. C'est, oui, bien sûr, les premiers de cordée là pour le coup. Mais, oui.
Absolument. Et donc de ce point de vue-là, ça montre finalement qu'on a un écosystème technologique aux États-Unis qui continue à se porter très bien. Et pour nous, ça valide l'idée que quand vous avez des entreprises qui investissent, généralement elles sont le leader futur de leur marché si ce marché finalement arrive à maturité.
Oui, mais c'est vraiment, SpaceX sera aussi à lui tout seul un ETF sur la personne d'Elon Musk, quoi. Enfin, Elon Musk détiendra à lui tout seul 79% des droits de vote. Grâce à des actions offrant des super pouvoirs, chacune des actions que détiendra Elon Musk sera associée à 10 votes. Et il sera quasiment du coup irrévocable. Les autres actionnaires ne pourront pas remercier Elon Musk, le débarquer de la tête de SpaceX. Ce sera impossible. Voilà. Je sais pas, c'est business as usual ou c'est quand même un ovni, ça?
On a un problème de gouvernance, comme on l'entendait tout à l'heure dans l'émission. Mais au-delà de cela, c'est la personnalité d'Elon Musk, c'est le rapport des investisseurs à Tesla, qui a été corrigé lorsque Elon Musk a pris certaines positions aux États-Unis.
Ouais. C'est un ETF sur Elon Musk, SpaceX, Olivier?
Je pense que oui. De toute façon, c'est très très lié à la stratégie et au personnage d'Elon Musk. Je pense que la SEC apprécie particulièrement Elon Musk. Hein. Il a eu quand même pas mal de sujets sur Twitter et compagnie sur les moments où il faisait ses déclarations par rapport aussi au moment où il voulait, on se souvient sur le Bitcoin notamment, lorsque Tesla à un moment avait de la trésorerie complètement au Bitcoin sur lequel il faisait des déclarations pour aussi faire potentiellement monter les valorisations de ses entreprises. Alors est-ce que c'est un génie ou est-ce que c'est un fou ou est-ce que ce sont les deux? Les génies sont aussi fous.
Les fous sont importants dans l'histoire. Le fou du roi est aussi son conseiller. Voilà, les fous sont parfois les conseillers.
Mais par contre, on verra si la SEC valide quand même tout le dossier en l'état, notamment sur la gouvernance. Je pense que le fait qu'il soit complètement actionnaire, c'est plutôt des choses qu'on voit sur des petites entreprises et plutôt sur le non-coté que sur des entreprises qui seraient du coup, pour le coup, cotées. Néanmoins, oui, c'est évidemment un gros pari sur Elon Musk et un risque certainement sur la personne. L'entreprise est capable de se développer sans Elon Musk, c'est aussi une idée. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait prendre le relais s'il lui arrivait quelque chose? Enfin, c'est aussi ça, hein, quand on a un groupe aussi important, il faut avoir des plans de suite.
Et il y aura des petits Elon Musk partout dans le marché, parce que ce groupe SpaceX sera intégré au Nasdaq 100, à l'indice Nasdaq 100, seulement après 15 jours de cotation. C'est exceptionnel, normalement il faut au moins un an pour intégrer le Nasdaq 100. Là, il y a un truc qui a changé, les règles, je ne sais pas. Il pourra, ce titre SpaceX, s'intégrer au Nasdaq 100 au bout de 15 jours seulement. Ça veut dire que ce groupe SpaceX sera présent dans plein d'ETF quasiment dès son introduction en bourse. On aura les petits Elon Musk partout dans nos ETF, quoi. Même si on n'a pas choisi à titre individuel de cibler SpaceX dans nos allocations?
Alors, on peut s'attendre à avoir un certain nombre d'ETF qui présenteront une indexation Nasdaq sans SpaceX ou sans un certain nombre de valeurs vraiment très importantes. Ça, on connaît l'industrie, on connaît l'efficacité de l'industrie ETF. Si jamais il y a une vraie demande et une vraie crainte de la part des investisseurs de manière à trouver des solutions pour pouvoir investir sur le Nasdaq 100, hors les et grosses capitalisations ou hors SpaceX, ça on peut s'y attendre si effectivement ça pose un sujet. Après, faut regarder quel poids représentera aussi SpaceX à l'intérieur du Nasdaq. Ce qui est vrai, c'est que ce sera coté très très vite. C'est souvent un reproche qu'on fait globalement à la gestion ETF ou à la gestion indicielle, c'est de ne pas participer aux IPO. Donc là, ce sera pas directement sur l'IPO, mais ce sera très proche. Étant donné l'importance de l'entreprise, le fait qu'elle l'intègre rapidement un indice, vu les montants de capitalisation dont on parle, vu l'importance globalement des montants en jeu, ça paraît aussi normal et assez logique que ça fasse partie de gros indices relativement rapidement, puisque ça aura un poids, que ce soit sur la tech, que ce soit sur les calculs, que ce soit sur les capacités de calcul aussi, hein, pour le reste de... on pense à Claude, on pense à Anthropique, enfin pour le reste de l'industrie, puisqu'il y a des deals qui sont en train de se faire sur des récupérations de capacités de calcul non utilisé forcément par SpaceX ou par Grok, notamment récupéré par Anthropique. Donc on voit globalement toute l'industrie de l'intelligence artificielle est en train aussi de s'organiser pour mutualiser potentiellement les puissances de calcul en fonction des moments où ils en ont besoin.
C'est une infrastructure B là, que vous êtes en train de nous décrire, qui est en train de se constituer effectivement. Et face à SpaceX, OpenAI, Anthropique aussi doivent s'introduire cette année. 3 giga introduction en bourse. Alors c'est au moment où SpaceX déposait son dossier auprès de la SEC hier soir qu'on a eu de nouvelles infos sur l'introduction en bourse à venir d'OpenAI. Comme par hasard hier soir. Peut-être une façon pour OpenAI de laisser filtrer les infos pour que les investisseurs aient bien en tête qu'il n'y aura pas que SpaceX. Quoi. Ne mettez pas tout votre argent sur SpaceX. On arrive aussi, on sera bientôt là. D'après les dernières infos de presse, OpenAI s'introduirait à l'automne prochain. Voilà. Il y a un duel entre hommes d'ailleurs, entre Elon Musk et Sam Altman là-dessus. OpenAI, Anthropique, SpaceX, comment vous regardez cette addition? La première addition exponentielle de l'histoire là pour le coup, Romain.
On est sur un petit duel d'hubris ou d'orgueil entre les deux fondateurs.
Vous croyez?
Maintenant, encore une fois, c'est tout à fait naturel que après financement sur du non-coté, on aille sur du côté pour aller chercher une profondeur capitalistique et pour pouvoir continuer finalement à financer l'investissement dans la recherche et le développement qui est absolument essentiel à l'heure actuelle dans cette révolution technologique. Et encore une fois, il y a deux zones géographiques qui effectuent cet investissement. On a d'un côté les États-Unis et puis on a finalement une sorte de duopole qui est en train de se formaliser avec la Chine. Malheureusement, en Europe, on a quelques leaders technologiques qui performent d'ailleurs très bien sur la côte. Oui. Maintenant, il faudrait peut-être un petit peu plus d'investissement et de vision stratégique pour pouvoir produire l'innovation de demain.
C'est notre question du jour aujourd'hui à nos auditeurs et téléspectateurs sur X et LinkedIn. On leur demande à choisir pour la suite dans la tech, vous privilégiez quoi? Plutôt les 7 magnifiques ou nos acteurs européens des semi-conducteurs qui, pour le coup, cette année, n'ont pas à rougir. Ils cartonnent en bourse depuis le début de l'année. ST Microelectronics gagne 150% là, depuis 1er janvier. Soitec, 550%. C'est complètement délirant. Alors voilà, est-ce que maintenant, les temps changent? Et finalement, ce sont nos acteurs européens des semi-conducteurs qu'il faut privilégier, d'après vous, plutôt que les 7 magnifiques. Est-ce que vous avez là-dessus un regard, Olivier?
Moi, je serais quand même plutôt toujours 7 magnifiques, notamment parce que les semi-conducteurs sont aussi beaucoup utilisés en Europe dans l'industrie automobile. Et donc, il y a quand même un lien entre ces deux industries. Et on sait que l'automobile, c'est quand même compliqué aussi. Et donc, du coup, moi, je serais plutôt toujours un peu 7 magnifiques. Il se murmure, hein, d'ailleurs, pour terminer sur OpenAI et SpaceX, que le procès intenté contre OpenAI avait pour but de retarder potentiellement, puisque...
Donc, l'introduction en bourse.
Voilà, de retarder l'introduction en bourse.
Pour que SpaceX s'introduise en premier.
Pour que SpaceX s'introduise en premier.
Ça sera largement gagné. Oui.
Parce que si jamais l'introduction était compliquée, enfin, si ça avait commencé par OpenAI avec une introduction un petit peu compliquée, ça aurait été d'autant plus compliqué pour SpaceX. Il vaut mieux certainement passer le premier. Et donc, c'était certainement stratégiquement une tentative pour arriver vraiment premier en termes de calendrier. Bon, le procès a duré peu de temps, hein, finalement. Mais en tout cas, ça permet a priori à SpaceX de passer le premier.
Romain, en 15 secondes, plutôt les 7 magnifiques ou enfin on revient sur les semi-conducteurs européens. Les investisseurs reviennent déjà depuis le 1er janvier, mais est-ce qu'il faut continuer sur l'Europe?
Nous, on reste aussi, on a un petit biais technologique américain, on cherche la croissance bénéficiaire des entreprises, et à l'heure actuelle, c'est finalement les entreprises du Nasdaq qui sont capables de les délivrer et toujours surprendre le consensus.